L'expérience commence. Ça commence par un face-à-face, une rencontre entre l'artiste hors humain et un pionnier oublié de la TSF, la transmission sans fil, Roberto Galletti, ingénieur italien, dont la Première Guerre mondiale a stoppé les projets. Les deux ont en commun les ondes et l'électricité. C'est l'occasion pour Hors Humain de faire revivre l'électricité de son corps. Il repart à l'origine de son histoire et des électrochocs reçus enfant. C'est une expédition au cœur des ondes, sonores et électriques. L'électricité au corps, par Nicolas Reynaud, Hors Humain et Céline Terce.
La foudre est un trop-plein d'amour céleste. Béni soit celui sur qui elle tombe.
Une énorme balle rouge gonfla dans le ciel. Les maisons furent secouées comme des maisons de poupées. Il fut rapporté par beaucoup que le nuage étincelait comme un brasier.
Le hors humain parle aux humains. Ici Radio Fantôme. Fréquence Galletti. À celles et ceux qui ont décidé de ne point mourir. Sachez que vos corps marchent à l'électricité. Il faut les rallumer d'urgence.
Je suis Bernard Chouaki, écrivain, et j'ai rencontré récemment notre ami hors humain. Dès que j'ai ouvert son livre, j'ai senti qu'il était dans le même plan que moi. Quand il se colmote avec l'énergie électrique, c'est un passe-muraille.
Monsieur Galletti, je suis un fantôme qui vient de loin. Je suis venu pour vous voir. Je m'appelle le hors humain. Et je souffle, monsieur Galletti. Je souffle. Je suis une antenne. Souvenez-vous, je me suis couché sur votre tombe. Et nous avons parlé ensemble longtemps. Vous vous souvenez ? Ah tiens. Une radio des années 62-63, quand j'étais gamin, ado. J'écoutais Retiens la nuit, de Johnny Hallyday. Et puis, ces radios d'avant-guerre, d'après-guerre.
Mais vous êtes pieds nus, vous n'avez pas froid aux pieds?
Non, non, ça fait 35 ans que je marche pieds nus, dans la ville, partout. Depuis mon saut dans Groenland. Alors je me présente à vous, je m'appelle le hors humain et Je suis très intimidé de ce lieu magique dont vous êtes ici, je suppose, la personne qui garde ce musée.
Voilà, Radio Musée Galetti, pionnier méconnu de la télégraphie sans fil.
Vous pouvez m'en dire plus sur toutes ces radios qui sont là?
Bien sûr, je pourrais vous retracer toute l'histoire de 100 ans de radio, depuis le poste à Galène, donc l'époque de Galetti, jusqu'aux radios web d'aujourd'hui, en passant par la Seconde Guerre mondiale.
Je dois vous dire, Joël, que, en fait, je suis un fantôme. Oui, j'ai une antenne, et je fais l'antenne partout où je passe. Et c'est comme ça que je suis monté jusqu'ici, parce que les ondes passent bien entre M. Galetti et moi-même. J'aimerais que maintenant vous fassiez visiter votre lieu.
Avec plaisir, je vais vous faire découvrir la vie de Galetti.
Écoutez un peu, juste une seconde. Si je la désire. Ici, Radio Fantôme. Fréquence. Galetti.
Nous pensions que c'était une petite histoire locale d'un scientifique qui avait fait cette station de télégraphie sans fil. On ne savait même pas qu'elle était à Champagneux, mais on savait qu'il avait communiqué avec l'Amérique. Et Galetti est né en Italie le 29 décembre 1879 à Torre San Patrizio, San Venanzo, une magnifique demeure sur le bord de l'Adriatique. Et puis, tout petit, il s'intéresse au mystère des ondes. Il fait des brillantes études pour devenir ingénieur. Et tout naturellement, à 21 ans, il est ingénieur et il va aller travailler chez Marconi, qu'il connaissait donc depuis sa petite enfance. Alors, il va faire d'abord une mission pour Marconi au Congo. Et comme il est généreux, il va faire le service militaire à la place de son frère, qui avait des enfants. Et quand il revient de ce service militaire, il y avait eu sans doute des tensions avec des chefs chez Marconi. Il n'a plus trop envie d'aller travailler chez Marconi. Et du coup, Galetti part en Angleterre, crée son propre système de télégraphie sans fil et dépose des brevets dans le monde entier. Et il va venir travailler officiellement en France avec le ministère des Postes et Télégraphes français. On est dans les années 1906-1910. Alors il fait tout d'abord une petite station près de Lyon à Villeurbanne. Il est arrivé à joindre les Saintes-Maries de la Mer et Bordjelkifan, qui est à 30 km à l'est d'Alger. Et puis sans doute que le but du ministère des Postes et Télégraphes et le sien, c'était la liaison transatlantique. Alors sa petite station n'était pas assez puissante et comme il était très souvent entre Lyon et Genève, il a prospecté dans notre coin. Alors voilà, vous vous trouvez face à une représentation de ce site qu'a découvert Galetti où on est dans les années 1910-1912. Alors, on a cette grande falaise de 500 mètres et Galetti va se servir de ce site pour installer cette colossale antenne HARP que vous voyez.
Ouais, incroyable.
10 câbles qui mesuraient chacun 1 km de long. Ce qui fait une antenne HARP unique au monde
comme
de
une harpe,
10 km.
Comme une harpe avec le son quoi, musical. Ouais.
10 km de long. Quand il vient s'installer et installer sa station de télégraphie sans fil dans la région, il n'y a pas d'électricité. Il va trouver les paysans de Champagneux, puis il leur dit, écoutez, je fais venir l'électricité pour les besoins de ma station. Profitez-en, mettez une lampe dans votre maison. Personne n'a voulu l'électricité.
Ils n'avaient pas l'électricité, bien sûr.
Courant continu,
la foudre,
très dangereux. Ils avaient encore des toits de chaume. Et donc, Galetti, quand il fait ses communications vers l'Amérique ou vers la Russie, toute la falaise est illuminée. Ça fait des étincelles, ça fait des arcs électriques, ça fait des...
Il y avait volés ou ils chargeaient des fois les isolateurs, puis ils avaient eu assez de travail pour planter les poteaux.
Vous avez vu planter les poteaux?
Ah oui.
Comment ça s'est passé?
Mais ben, ils avaient bien, c'était pas comme aujourd'hui. Ils avaient bien la peine pour faire les trous dans le rocher.
Sûrement, comment ils faisaient?
Ben, il y a la broche, puis le machin. Jamais j'ai pas aimé faire pour ta nuit.
C'est très très haut. Il y a le vide. C'est très vertigineux. Et quel courage pour avoir monté tous vos fils avec tous ces paysans qui vous ont aidé. Un travail de titan, monsieur Galetti. Je me prépare, je m'approche du vide. Je mets ma tête au sol, sur les pierres. J'électrise mon corps. Et voilà, monsieur Galetti. La tête à moitié dans le vide. Mes pieds qui touchent le stellaire, l'espace. J'ouvre mes deux jambes, ce sont mes deux antennes. Et je fonctionne à l'électricité. Merci à vous, monsieur Galetti. Merci.
Et au mois de juillet 1913, la station est terminée et Galetti va pouvoir faire ses premiers essais.
Oui, il peut émettre. Oui.
Premiers essais concluants. Puisque très vite, il joint Lausanne, l'Angleterre, et pendant tout l'hiver 1913-1914, regardez là-bas, vous savez, la station de Tuckerton dans le New Jersey, entre Washington et New York. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il arrive à communiquer aussi bien le jour que la nuit. Ses émissions sont de bonne intensité, et il commençait à émettre vers la Russie.
Vers la Russie, oui.
Avec une puissance multiple de la Tour Eiffel. Cette station était promise à un bel avenir, mais on voit arriver à l'horizon de cette année la guerre de 14. Alors à la Tour Eiffel, il y a Gustave Ferrier qui a sauvé la Tour Eiffel du démontage en y installant la télégraphie sans fil militaire et qui se retrouve chargé à ce moment de la guerre de 14 de s'occuper de tout ce qui est transmission, télégraphie sans fil, télécommunication. Ferrier a besoin de matériel. Il lance un acte de réquisition, et bien sûr que la station de Galetti en fait partie. Et le capitaine Garnache arrive le 28 août avec l'acte de réquisition, des soldats pour l'aider. Il dit à Galetti, je démonte. Et en fait, ce capitaine Garnache, quand il voit l'importance de cette station, les services qu'elle pouvait rendre, et à la France, et à la Tour Eiffel, il dit à Galetti, écoutez, je prends sous ma propre responsabilité de ne pas démonter. Vous poursuivez vos travaux de prolongation de l'antenne et vous aurez en charge les communications avec la Russie pendant la guerre. Le mois d'août se passe. Bien Galetti verra arriver la marine, des soldats, et ils démontent tous en précaution et transportent tout le matériel à Bordeaux. Aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qu'ils ont fait du matériel.
Oui, c'est gardé secret tout ça. Enfin, moi qui fais des antennes dans la ville depuis 30 ans, et cette énergie électrifiante avec mes souffles me parle. Et je pense qu'il y a eu quelque chose de pas très juste quelque part, au niveau des informations pour les poilus. Moi je parle pour les poilus, qui auraient pu être informés. Et on a cassé cette antenne. Il y a une raison.
On a des témoignages de poilus, plutôt descendants de poilus, hein, qui étaient dans les tranchées et qui communiquaient avec leur poste à galène.
Eh oui.
Avec le petit fil d'antenne qui tendait, donc les antennes étaient détruites sous les bombardements. Les soldats, ils partaient en rampant. Quand ils trouvaient le fil de l'antenne, ils l'accrochaient au bout de leur baïonnette. Et après, ils continuaient à ramper pour trouver l'autre bout.
Allez, en avant, réveillez-vous. On monte, c'est l'heure. Baïonnette au canon. Baïonnette au canon. Baïonnette au canon. Baïonnette au canon. Soldats, à l'attaque. Pas de quartier, à la trépaille. Avancez, avancez. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fous là? Avancez! Avancez! Attention, bombe au phosphore, bombe, 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 toujours bombe, bombe au phosphore. J'en peux plus, mon capitaine. J'ai les tripes à l'air. Vous savez, ça m'encombre. Ça m'empêche de marcher, c'est lourd. Lourd à porter. J'en peux plus. Je veux rentrer chez moi. Avance. Allez, avance. Avance. Ou crève dans la boue. Mais avance. Avancez. Avancez.
Alors nous avons travaillé longuement avec Mario Guidone, qui était un historien de la science de l'Université de Bologne à Pavia. Et ses conclusions sont claires. Il dit la destruction de cette station est une erreur de l'histoire de France, payée par du sang supplémentaire réclamé aux poilus.
Et bien voilà, nous y sommes. Et en fait, Galetti, il est mort en 1932, c'est ça?
Il est mort en 1932.
D'une crise cardiaque?
Alors on appelait ça autrefois un coup apoplectique. Et il était dans la recherche sur le radioguidage d'avions à l'époque. Donc c'est l'époque où les avions volent à vue en suivant les lignes de chemin de fer, les routes, les cours d'eau. Et Galetti est arrivé à mettre au point un système qui permettait de diriger les avions comme sur des rails. Et il y a un journaliste de l'Evening Chronicle qui est monté dans l'avion et il est complètement émerveillé. Ils étaient en dessus des nuages et disaient « Même moi, je serais capable de piloter l'avion. » Parce que quand on est dans ce rayon, on entend le bip, bip, bip. On sort du rayon, on n'entend plus rien.
C'est Monsieur Galetti qu'on voit dans ce, dans ce
oui.
cadre.
C'est bien Galetti, oui. Peint par un de ses cousins.
Je trouve qu'il ressemble à un professeur, avec sa petite barbiche, très élégant en tout cas. On sent qu'il n'est pas là en fait.
Oui, il était habité par son histoire. Les gens qui le croisaient disaient, quelquefois il ne nous voyait pas. Si on ne s'est pas fait tuer, c'est un miracle. Il ne fallait rien toucher, il y avait de l'électricité partout. De temps en temps, il y avait des courts-circuits, ils ouvraient les fenêtres, ils sautaient par les fenêtres. Je vous lis. Sur la baraque en bois montée sur pilotis, on avait monté un tonneau sur le toit. À l'intérieur, il y avait 100, 151 litres d'eau salée. Cette eau salée tombait goutte à goutte pour faire l'alphabet morse. Il y avait une machine qui tapait. Ta, 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 ta.
Moi, je suis en train de regarder la photo, là, la station de TSF. Et vous me parlez du sel qu'il y avait sur le toit. Et moi, ça me fait penser aux électrochocs que j'ai eus à l'âge de 6 ans, 7 ans, à l'Institut médico-légal. Donc ça me fait penser à cela, parce qu'il y a le toit, moi c'est ma tête. Ça aussi, ça me rapproche de Galetti sur d'autres formes.
Ici, Radio Fantôme. Ici, Radio Fantôme. Fréquence Galetti.
Ce matin-là, l'enfant avait remué dans mon ventre comme s'il avait voulu s'enfuir du monde. Les spasmes de mon corps écrasaient l'enfant. Ma chair s'ouvrit en éclatant et le jeta dans la fournaise qui brûlait ma maison.
L'enfant n'a pas été formé aux règles de convenance sociale. Rêvasse au moment de se déshabiller, fouinasse dans le placard d'un voisin, se couche avec un sac de billes. Le jugement est parfois très bon, parfois faussée par suite d'une inadaptation réelle.
Alors là, je me trouve en fait sur la place d'Aulnay, à Lyon. Alors évidemment, c'est chargé de souvenirs, chargé de choses émouvantes. Et sur cette place, il y a l'église d'Aulnay, et c'est une des plus vieilles églises de Lyon, entourée de marais. Je venais souvent me recueillir dans cette église parce que j'étouffais tout simplement, et je sortais de la maternelle qui est juste à côté, qui est à même pas 50 mètres, et je me réfugiais. C'est un refuge en fait, cette église d'Aulnay. Et j'y trouvais le calme, la sérénité. Et puis j'allais discuter avec ce Christ, je ne connaissais pas son nom. Et je parlais à ce monsieur parce qu'il étouffait sur sa croix. Des fois je tombais sur un cercueil d'ailleurs qui était là, qui était à l'abandon. Et donc le cercueil me faisait toujours peur. Donc c'est vrai que j'ai vécu beaucoup avec les morts. Et ce qui m'a apporté une vision sur la vie humaine assez particulière. Puisque pour moi, déjà tout enfant, c'était de ne pas mourir.
Oh, 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 oh.
Là, il est surpris.
Oh, 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 oh.
Voilà, je me mets en contact avec les corbeaux. Et je faisais ça tout petit. J'avais besoin de croiser pour grimper, pour monter dans l'air, en fait. Hein. Ce qui rejoint M. Galetti, d'ailleurs, qui se trouve ici avec moi, puisqu'il me suit, hein, M. Galetti. Il est là, il va rentrer dans l'église avec moi, d'ailleurs. Et là, je me retrouve devant la croix. Quand j'avais 6 ans, je sortais de la maternelle. Moi, j'étouffais et je lui parlais. Je vais lui demander aujourd'hui la beauté. Se tue en beauté, le saviez-vous? Répondez-moi. Réponds-moi. La beauté se tue en beauté, le saviez-vous? Vous ne me répondez pas, hein? Hein, Christ, vous ne me répondez pas. Couché sur mon ombre mutilée, j'aime la nuit. Je suis l'homme féroce, le mangeur d'hommes, le mangeur d'hommes, le mangeur d'hommes. Mon sang s'égoutte sur les grilles du temps qui hurle. Ne m'approchez pas, mère, non, ne m'approchez pas. Je suis le carnivore du Golgotha. Le carnivore du Golgotha. Ni vous autres humains qui ne pensez qu'à sucer mes pieds de lave. Le 13e jour, jour de l'an 13, je quitterai les restes de ce monde malade. Et vous n'aurez plus de cesse pour m'apprivoiser. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas. La couronne de sang, je reviendrai chercher. Alléluia, le maudit. Alléluia. Le maudit. Alléluia. Le maudit.
Je suis solo. Qui peur des hommes. Je suis ce loup qui a peur des hommes. Je suis ce loup. Je suis ce loup. Donc
les archives départementales et métropolitaines ont pour mission de collecter, classer, conserver et communiquer les documents qui proviennent de diverses institutions de l'Ancien Régime, des établissements et des institutions du département, et des notaires et des petites communes. C'est ainsi que nous avons été saisis d'une demande de recherche pour reconstituer le parcours d'un enfant, donc prénommé Jean Aberet. Ce garçon donc a été confié à l'assistance à l'enfance par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants en 1953. Il a été l'objet d'une mesure de correction paternelle. C'est une demande d'incarcération d'un enfant. Et donc en général, quand il y a cette demande qui est faite, l'assistance est saisie pour évaluer l'enfant et donc le place en observation pendant quelques mois pour pouvoir statuer. Et donc c'est pour ça qu'il a été placé à la maison des enfants.
Là, nous nous trouvons rue Sainte-Hélène. Alors, c'est toujours des souvenirs. Donc, voilà, j'ai expiré. Parce que les souvenirs, pour moi, c'est un petit peu la mort.
Né en Allemagne, où sa mère travaillait pour le STO, le mineur était gardé durant la journée à la crèche de l'usine, où il était nourri au sein par sa mère et reçut des soins satisfaisants. Il revint en France à la libération avec sa mère, qui le garda avec elle jusqu'à l'âge de 14 ou 15 mois. Il fut alors placé dans une pouponnière, le Nid à Bourgoin, jusqu'à l'âge de 2 ans, puis chez des particuliers à Morat, en Isère, jusqu'à l'âge de 6 ans. Depuis cet âge, il a toujours vécu au foyer de sa mère, remarié, et a fréquenté successivement différentes écoles, d'où il s'est la plupart du temps fait renvoyer.
Je déambulais dans les rues de Lyon, dans les rues de mon quartier, il y avait la Saône qui est juste à côté, qui n'est pas très loin, où j'allais me baigner tout petit parce que ça me calmait tout simplement. Donc je mettais mon petit corps dans l'eau et ça calmait mon système nerveux. Car j'étais effectivement intenable, invivable. Et donc il fallait que j'exulte.
Il fit plusieurs fois l'école buissonnière et fut une fois ramené par un policier à qui il n'avait pas voulu donner l'adresse de ses parents. Il était resté plusieurs heures au bord de l'eau à regarder les pêcheurs.
Ces convulsions arrivaient comme ça en une fraction de seconde, prévenez pas. Et je sortais de la maternelle en étouffant. Donc je ne pouvais pas me concentrer ni sur des livres, ni sur l'écriture, ni rien du tout. Donc je fuyais dans les rues, dans ces petites rues de ce quartier où je me traînais par terre. Et les convulsions, ce n'est pas de l'asthme. Hein. L'asthme, c'est déjà terrible, mais les convulsions, ça vous surprend. Donc je me roulais par terre sur le trottoir et c'était les gens qui me voyaient, ils me demandaient « Mais qu'est-ce que tu as petit? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe ?» Et je ne pouvais pas leur expliquer, mais ils voyaient que j'étouffais, donc ils appelaient police secours et je me retrouvais en fait à l'hôpital. Ça donnait ça en fait.
École maternelle rue Jarente, école primaire publique rue de l'Abbaye des Nais, 1950-1951, externat Saint-Joseph, dernier trimestre de l'année scolaire 51-52, école primaire publique Quai Fulchiron en octobre 1952, école primaire rue de l'Abbaye des Nais, 8 jours en novembre 52. À une seconde entrevue, toujours en présence de sa mère, il est encore mal réveillé, à moitié vêtu, et il tient sa culotte à deux mains. Il paraît heureux des avions à découper que nous lui apportons pour son anniversaire. Il ignorait que ce fut son anniversaire. La mère elle-même l'avait oublié. Il répond par monosyllabes. Ne s'ennuie-t-il pas de l'école? Aime-t-il mieux l'école ou les vacances? Un peu l'école et un peu les vacances.
Place en père aussi, qui est juste à côté, j'allais sur les ailes des anges et je trouvais mon calme. J'étais dans le lieu magique de l'électricité avec Galetti, bien sûr, qui me suit, qui est toujours là, qui fait partie maintenant de mon armée fantôme.
Quand les fusées détruisirent le monde, tout se mit à siffler. Les corniches, les fissures dans le roc sifflèrent dérision. Les vents sifflèrent à travers les fenêtres disloquées. Des portes des chaises roulantes sifflèrent tandis que très haut elles survolaient les grandes plaines. Les derniers soupirs sifflèrent depuis la bouche des morts. Et tandis que la chair brûlait sur leurs visages, les crânes sifflèrent.
Alors là, je me retrouve dans un hôpital, hôpital psychiatrique du Vinatier à Lyon. C'est là que l'on m'a mis après la guerre, après les bombes. À l'époque, on ne savait pas quoi faire des gosses de la guerre, pas d'après-guerre, mais de la guerre. Et donc, ils nous mettaient dans des centres spécialisés. Et donc, moi, j'étais en hôpital psychiatrique parce que j'étais un enfant insociable. Je me souviens effectivement qu'avec les gosses, il y avait trois enfants qui poussaient des wagonnets, il y avait des rails. C'était un état dans l'état, l'hôpital psychiatrique du Vinatier. C'est un hôpital immense. Il y avait du blé, il y avait du sel, il y avait de l'avoine. On vivait en vase clos, en fait. Il y avait des paysans qui étaient là et qui s'occupaient de nourrir tout simplement les enfants, les adolescents, les adultes, les vieillards. Ce que je me souviens aussi, c'était effectivement les premiers sédatifs. Je vais les énumérer. L'argatil en premier, haloperidol, théralène, nosinan. Donc ça, c'est tous des médicaments qui étaient faits pour nous endormir, pour endormir notre système nerveux. Et je voyais aussi des personnes qui étaient en traitement, qui hurlaient face aux arbres, parce qu'ils avaient peur des hommes, parce qu'on savait que les blouses blanches arrivaient pour nous médicamenter. Et moi, je les recrachais en cachette. Je pense que ça m'a sauvé. J'ai eu un instinct ou une grâce qui me permettait de dire « mon petit Jean », parce qu'on m'appelait Jeannot à l'époque, « mon petit Jeannot, crache, crache, crache ». Ne prends pas ça dans ton corps. Et ensuite, je me souviens bien, quand on allait se laver, c'était un immense hangar qu'il y avait à l'hôpital psychiatrique, et il y avait une trentaine de baignoires qui étaient fermées par du bois, et il y avait juste la tête qui sortait. Et moi, je regardais les hirondelles.
Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette technique thérapeutique de la mort longue.
Alors, l'utilisation de l'électricité dans le traitement de troubles psychiques, on retrouve trace il y a très longtemps où il était décrit des situations de patients qui souffraient de mélancolica, et c'était décrit comme tel, on ne sait pas exactement de quelle pathologie ils souffraient ou dans quel état ils étaient sur le plan psychique, et ils utilisaient des poissons torpilles. En fait, ils faisaient des chocs avec des poissons torpilles qui avaient donc la possibilité de délivrer un courant électrique pour soigner des pathologies douloureuses à l'époque.
Et la médecine moderne, complice en cela la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ses morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi.
On est dans des périodes, toute la première partie du XXe siècle, où pour certaines maladies, on n'a pas de solution thérapeutique. C'est-à-dire que ces patients qui sont dans des états, souvent des états psychotiques, c'est probablement pour beaucoup les états schizophréniques que l'on décrit aujourd'hui, ils étaient du coup mis dans des établissements et ils sortaient plus, et c'était des temps d'observation. Et on faisait des hypothèses. Jusque 1938, où deux Italiens, Serletti et Bini, mettent au point, c'est un chercheur, hein, Bini est un chercheur, Serletti est un psychiatre, et il s'intéresse à la question du courant, il travaille sur des modèles animaux, comme on fait en recherche, Du coup, ils mettent au point un appareil qui délivre un courant et ils traitent un patient en 1938, le premier patient en 1938. Et ce patient a eu plusieurs séances et au bout d'une dizaine de séances, vraiment le patient a été transformé sur le plan de son état clinique. On sait que dès les années 50, on est capable de faire une anesthésie générale. Hein. Mais ça ne se pratiquait pas sous anesthésie générale dans 95% des cas probablement. Je n'en connais pas les raisons. Ça se délivrait au lit du malade, ça se délivrait souvent dans des chambres communes derrière un bar à vent. Donc on lui faisait un choc électrique avec des appareils qui ne délivrent pas le même courant que maintenant. Depuis les années 60-80, le type de courant qui est délivré a changé, il y a une grosse évolution à ce niveau-là. C'est un choc électrique qui déclenche une crise convulsive qui allait durer entre 20 secondes et plusieurs minutes, et on allait répéter les séances. Et on voit dans la littérature, on retrouve des descriptions de personnes qui ont eu plusieurs centaines de chocs électriques. Il est clair qu'on ne pratiquera plus jamais comme ça aujourd'hui. Maintenant, c'est aussi un champ qui pose beaucoup de questions, hein, c'est-à-dire intervenir sur le cerveau pour agir sur l'humeur. C'est des débats qui sont complexes. En tant que psychiatre, elles sont tranchées pour nous, ces questions-là. Elles sont tranchées dans le sens où ça fait partie des moyens qu'on peut avoir pour soigner les patients. Donc, 38, on découvre le traitement, présentation, et ça fait effectivement, c'est une révolution à l'époque. Du coup, on le propose l'argamanu dans plein d'indications. C'est-à-dire qu'il va être testé dans les années 40-50, dans plein d'indications. Donc du coup, il y a aussi forcément des abus, et notamment des abus où ça va être utilisé pour traiter l'agressivité, notamment. Clairement.
Trouble caractériel, très suggestible et influençable. Fragilité surtout affective et morale. Agressivité et son cortège. Chez un garçon fortement introverti, aux tendances nettement schizoïdes, qui présente un syndrome obsessionnel lié à une perturbation affective importante. Risque ultérieur possible de réaction antisociale.
Oui, alors, d'abord, je voulais vous remercier de me recevoir. J'ai écouté vos explications, fortement intéressantes, parce que le garçon de... Et ça va vous intéresser particulièrement. Le gosse de 6-7 ans, on m'a emmené faire des électrochocs, pas ici, mais à l'Institut médico-légal de Lyon, juste en face de l'hôpital Édouard Herriot.
Vous aviez 6-7 ans ?
6-7 ans. Paco Marteau, qui lui a reçu des électrochocs vers les 40 et quelque chose. À 7 ans, je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui, je demandais à mon père où on va. Il me disait, tu verras, pose pas de questions. Et on arrive sur les grandes portes de l'Institut médico-légal. Pas de lumière, donc pour un enfant, c'est angoissant déjà. Mais surtout, c'est une chaise. Une chaise. On m'attache les poignets. On met un cale-dent pour pas que les dents explosent. On me met du sel sur la tête pour que l'électricité passe bien, c'est un courant. Avec un casque, c'était un peu exactement comme Orange Mécanique. Et je vois les infirmiers qui sont dans la cabine, font signe. Mon père n'est plus là, donc je hurle « Papa, t'es où ?» C'était ultra violent parce que j'ai hurlé. J'ai vraiment hurlé. Donc c'était, je ne veux pas dire barbare, c'était parfaitement humain. C'était que la médecine... ne savait pas exactement où l'on était, en tout cas. Ce n'est pas une agression, hein, justement, là-dessus. Je raconte mon histoire avec beaucoup d'émotions face à vous, qui êtes psychiatre.
Et sachant que je trouve que c'est d'autant plus touchant que vous décrivez une scène de traitement que je ne connaissais pas, dont j'ai pu entendre parler, mais je n'avais pas idée que ça pouvait se pratiquer. Chez l'enfant, dans des conditions comme celle-ci, sur une indication, une situation où ça me pose certaines questions.
Sommeil d'une durée normale, mais troublé par des rêves que l'enfant dit effrayants et qui ont, dans quelques cas, entraîné des manifestations de terreur nocturne.
Il y a, dans l'électrochoc, un état flaque par lequel passe tout traumatisé. Il lui donne non plus à cet instant de connaître et d'affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut quand il était soi.
L'attention est très déficiente.
Il suit passé.
Et la mémoire visuelle très mauvaise.
Et ne l'oublierait pas.
On pourrait presque parler d'amnésie d'évocation, comme dans les traumatismes crâniens.
Mais je trouve très très intéressant ce que vous dites sur finalement une question qui est arrivée beaucoup plus tard. C'est dans quelles conditions on fait le traitement. On ne se posait pas la question dans les années 50. Ça n'excuse rien. Et d'ailleurs, votre témoignage, il est important. On ne se posait pas forcément la question non plus du vécu des patients. Il y a quelques années, on se le pose différemment aujourd'hui.
Et c'est vrai que je suis resté pendant des années à être triste, à être malheureux, à une rage terrible pour ceux qui m'avaient fait ça, dont les psychiatres d'ailleurs, parce que j'en voulais vraiment aux psychiatres. Et en même temps, après, en fait, ces électrochocs, je les ai sublimés. C'est ça le paradoxe. Grâce aux électrochocs, je fais d'autres électrochocs, parce que j'en ai fait un extraordinaire, qui était mon saut dans le Groenland, où j'ai battu le record mondial sur le choc thermique. C'est-à-dire que j'étais en hélicoptère, et en maillot de bain pour les slips hommes, la publicité, je faisais le rôle de mannequinat, et j'ai voulu aller jusque-là, alors que le professeur de cardiologie de la Salpêtrière de Paris me disait « Mais tu vas mourir, tu ne peux pas aller dans une eau à l'époque, en 84, à moins 2 degrés Celsius, l'océan gelé, à moins 5. » Et donc j'ai battu ce record mondial 3 fois. Donc, les électrochocs ne m'ont pas spécialement calmé. Et en fait, je vous dirais, en vous regardant, je ne suis toujours pas calmé, puisque j'écris de la poésie, je donne des cours de souffle, je monte sur des ponts, sur des toits, face aux policiers.
Je ne prends pas au jeu activement, mais en dehors des règles, des limites. À table, prétend qu'il y a des petits chevaux qui volent et que les sirènes existent.
Vraiment jusqu'au bout. Pourquoi on a mis des enfants d'après-guerre de 6-7 ans au milieu des morts ?
Alors, qu'il y ait eu des séances d'électrochoc à l'Institut médico-légal, je l'apprends aujourd'hui. Je n'en avais jamais entendu parler. 7 ans électrochoc, c'est possible. L'histoire de la psychiatrie et de la médecine légale lyonnaise sont en partie confondues, dans le sens où beaucoup des professeurs de médecine légale ont été des psychiatres. Après, c'était un courant de pensée qui, justement, s'intéressait beaucoup à la criminologie. C'est pas forcément incompatible avec l'utilisation des électrochocs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible que oui.
Lester Bangs, critique de rock américain, en 1976, à propos de l'album de Lou Reed, Metal Machine Music. On m'affirme que les adolescents soumis aux électrochocs ressentent une affinité toute particulière avec Metal Machine Music, qui, paraît-il, leur apaise les nerfs. C'est pour eux une sorte d'hymne.
Alors là, on se trouve devant l'Institut médico-légal, avenue Rockefeller. C'est très impressionnant. C'était le début de mes souffles électrifiants. Allez, on va se recopier. Oh.
Alors, nous sommes dans un long couloir,
très bien éclairé. À l'époque, c'était très sombre. Et mon père me prenait par la main et on voyageait là dans ce long couloir. J'aimerais bien voir jusqu'où on peut aller si on n'est pas arrêté. Je pense que c'était là. Ils en ont fait un amphithéâtre. Alors, l'amphithéâtre est fermé. Il y avait de grands rideaux noirs, c'était une salle immense. Et c'est là qu'il y avait une chaise où on m'a attaché du sel sur la tête et les électrodes qui sont parties dans ma cervelle. Vous voyez, c'est immense, on dirait un navire. un navire de morts, quoi, où on chargeait les morts ici. Puisque les autopsies se faisaient en bas, d'après ce que j'ai compris. Je déambule, je cherche. Et je vais faire de la corde à sauter. Écoutez. Je m'éloigne. Je me rapproche. Je suis vivant. Pour tous les enfants de la guerre, je suis vivant. Mais je saute pour eux. Là, on est dans la salle où on lavait les morts. Ici. Je suis couché sur la table d'autopsie, là où il y a eu des milliers de morts, des morts suspects. Nous sommes dans la salle, c'est impressionnant, où on a ouvert des corps. On n'a pas été arrêté, vous êtes comme des étudiants et vous allez voir ce souffle électrifiant. Merci Monsieur Galité de nous avoir ouvert les portes, car c'est vous qui nous avez ouvert les portes où il n'y a personne. Et je suis couché sur la salle d'autopsie. Comme si j'étais mort, et je ferme le souffle pour ceux qui sont passés par là. Ma vie ne sera plus comme avant. J'ai été autopsié, mais je ressors vivant. Autopsié par mes souffles et pas par les hommes. Et je souffle sur la table. Quelques secondes encore, tête inversée, tête sur la table, recouverte d'un drap blanc. Quelques secondes, je m'imprègne de tous ces disparus et je demande protection à cette armée fantôme. Voilà l'histoire du hors-humain.
Elle a commencé ici.
Ici, Radio Fantôme. Fréquence, Galetti. Je ne peux émettre sans vous, sachez-le. Voyez-vous marcher à l'oxygène, eh bien, ça se termine. Regardez l'état de la Terre. Chargez-vous d'électricité. On va faire tourner sa dynamo. Il faut remonter avant sa naissance.
Alors, cette histoire-là...
C'est l'enfant de Galetti ? C'est son enfant que vous gardez ici ?
Je ne pense pas, c'est un bébé précieux, on prend soin. Mmh. Disons que c'est une histoire qui s'est passée à Ost. Les Allemands et la milice sont passés, mais n'ont pas trouvé le poste TSF. Est-ce que vous pouvez le trouver ?
Dans le berceau, peut-être, non ?
Ben, regardez.
Oui, je vais regarder. Je ne vais pas le déranger, je ne vais pas le réveiller, le bébé ?
Non, faites attention, c'est prêt, il va pleurer.
Attends, mon bébé, bouge pas. Voilà, je cherche. Dans les couvertures. Joël, je ne trouve pas. Dessous, peut-être ? Peut-être dessous. Ah ben oui, dessous. C'est ça ?
C'est ça.
Et pourquoi l'enfant est au-dessus des ondes ?
A parlé normalement à plus de 2 ans. Pas d'informations sur les premiers mots. Pas d'informations sur les premières dents, mes premiers pas à 14 mois. Allaitement maternel jusqu'à 1 an. Le service social de la PMI signale une grossesse et un accouchement pénibles, mais nous n'avons pas plus d'informations sur cette question. Née à terme, grossesse et accouchement normaux d'après la mère.
La terre entière siffla dérision à l'adresse du roi de la création. Cela noya le bruit des explosions et les derniers cris des maîtres du monde. Voici l'enfant que mon ventre a jeté dans les flammes.
Première naissance, 1944, janvier, dans le froid. Ça se retrouve dans le Groenland également plus tard. Le camp où je me trouvais, ce camp de travail, était à Alsal. Les bombes pleuvaient sur l'Allemagne, les Anglais et les Américains bombardaient l'Allemagne. C'était pas la fin de la guerre encore. Loin s'en fallait. Là on est sous la pluie, c'est génial. On est tous en train de se laver par la flotte. Voilà. Et puis les bombes, ça faisait ça. Je suis à l'intérieur du pont de l'Alma. Faut faire attention parce qu'il y a des individus. Très attention, il faut le faire. Et voilà, on est en zone dangereuse. Bon ben voilà, et c'est dangereux parce qu'on a vu qu'il y a une horde de rats, il y a au moins une dizaine de rats qui se baladent. Mais ils sont énormes, énormes. Tout seul. Galetti hors humain. Les fantômes associés. Présente, concert. Oh oh ! Dans le pont de l'Alma, côté.
Mes chers Antonin Artaud, chère Laurine.
Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organe, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des balmusettes, et cet envers sera son véritable endroit.
Ici Radio Fantôme. À celles et ceux qui ont décidé de ne point mourir.
L'électricité au corps. Avec Joëlle Perrier-Gustin, conservatrice du musée Radio Galetti à Saint-Maurice-de-Rotrans. Emmanuel Poulet, psychiatre, hôpital Édouard Herriot, hôpital du Vinatier, Lyon. Marie-Ange Villeray, archiviste aux archives départementales et métropolitaines, Lyon. Bernard Chouraki, écrivain. Et la voix d'Antonin Artaud en 1947. Lecture de pièces de guerre d'Edward Bond et de Psychotic Reactions et autres carburateurs flingués de Lester Bangs par Rebecca Buchholm. Poèmes, chants, percussions et souffles par Hors Humain. Metal Machine Music de Lou Reed. Guitare électrique et ondes Martenot d'Augustin Villard. Coordination Aurélie Charon. Attaché de production Inès Duperron. Prise de son Pierrick Charles. Mixage Alain Joubert. Une expérience signée Hors Humain et Nicolas Reynaud, réalisée par Céline Terce.